France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique pour ce dernier numéro de l'année. Je vous propose une rediffusion. Le nationalisme, l'élection de Trump au terme d'une campagne particulièrement nationaliste, la montée des nationalismes un peu partout, à l'heure, paradoxalement, où les solutions à nos problèmes se trouvent plutôt dans le très local ou le grand large global. Nous nous interrogeons sur cet isthme de droite né à gauche. Le nationalisme revient.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Le nationalisme, c'est la guerre.
N'en déplaise aux tueries ferraires de François Mitterrand, seule la nation protège le faible du fort.
Le nationalisme, il faut se pencher sur ce terme et sur ce concept parce que le nationalisme revient. On le voit partout sur la planète et singulièrement en Europe, où même une guerre à l'ancienne, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, est largement teinté de nationalisme exacerbé. Et puis, il y a les élections partout sur le continent, les partis nationalistes progressent. Chez nous, le Rassemblement national ne se revendique pas du nationalisme, mais de droite nationale, en fait, c'est la même chose. Le nationalisme est à l'extrême droite quand il s'incarne dans un parti politique, mais ça n'a pas toujours été le cas, parce que le nationalisme, le mot, n'a pas toujours recouvert la même réalité. Ce véhicule politique qu'est le mot nationaliste a changé de cargaison à la fin des années 1880. Si le nationalisme, la chose, est décelable depuis la révolution de 1789, Valmy, les soldats de l'an 2 puis le bonapartisme, on ne se revendique nationaliste que depuis la fin du 19e siècle. La nation, pour la France l'Hexagone, représente, pour un Breton, un Bourguignon, un Périgourdin, un Vosgien ou un Parisien d'il y a 200 ans, un horizon beaucoup plus large que le périmètre habituel de sa province et de sa vie. La nation est donc, à cette époque, une ouverture, une possibilité d'émancipation, alors qu'elle apparaît aujourd'hui, si on lui accole le suffixe « isme », comme un repli. La nation, dans nos démocraties européennes, même à l'heure de l'Union, c'est la circonscription qui génère toujours le cadre de légitimité politique le plus puissant. Mais est-elle toujours le cadre le plus pertinent pour faire face aux défis d'aujourd'hui? Par exemple, le principal d'entre eux, l'environnement, le très local et le très global seraient sans doute des niveaux beaucoup plus efficaces face à la perte de pouvoir sur le cours des choses que les gouvernements nationaux subissent, face à ce sentiment d'impuissance publique. Certains, et ils ont le vent en poupe, expliquent que plutôt que d'aller à la fois vers le plus local et le plus global, la proximité et le grand large, il faut réaffirmer la nation. Ce sont les nouveaux nationalismes. Le nationalisme revient, mais d'où revient-il? C'est la question que nous nous posons dans ce numéro d'enquête de politique avec trois historiens. D'abord, Quentin Deluermoz, spécialiste de la France et de l'Europe du 19e siècle. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris et auteur, entre autres, de « D'ici et d'ailleurs, histoire globale de la France contemporaine », édité par La Découverte. Pour qu'il y ait nationalisme, eh bien, il faut qu'il y ait nation. Quentin Deluermoz, une interview réalisée dans un café en marge des rendez-vous de l'histoire à Blois en octobre dernier.
Qui va donner naissance au contenu politique de l'idée de nation, c'est la Révolution française. C'est-à-dire, c'est ce moment-là où on a l'impression que la nation rentre dans l'histoire et devient un acteur de l'histoire extrêmement concret. La Révolution française va diffuser cette idée-là autour d'elle, et particulièrement pendant l'épopée napoléonienne, que ce soit Napoléon qui importe avec lui cette idée ou qu'elle soit mobilisée contre lui. Et à ce moment-là, elle va se doter d'une consistance nouvelle.
C'est ce qu'on appelle l'émergence des États-nations.
Alors, pas encore, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que quand on pense à nation, on pense immédiatement à l'État-nation. On oublie d'abord qu'en Europe, il y a des empires qui sont multinationaux. Et l'État-nation, c'est plutôt quelque chose qui se met en place après 1848, en 1860. Là, on est dans un moment assez fascinant d'expérimentation. Au fond, on essaie de donner un contenu concret à la nation qui va être extrêmement lié à une notion d'émancipation. C'est le moment, en gros, où le nationalisme est dit ouvert, classé plutôt à gauche. Pour donner juste un exemple, c'est assez simple, c'est comme la plupart des monarchies de l'époque étaient dites de droit divin, L'idée de nation, au fond, c'est que c'est une nouvelle forme de légitimité qui s'appuie sur le peuple, qui demande une constitution, un droit de vote, pas encore le suffrage universel. Donc lutter pour la nation, c'est lutter contre la tyrannie, contre le despotisme, et donc c'est associé à cette idée d'émancipation extrêmement généreuse. Et on est dans ce modèle, surtout au moment des révolutions de 1848, de ce qu'on appelle la République universelle, c'est-à-dire que toutes les nations sous forme de république seraient reliées entre elles dans une espèce de fédéralisme extrêmement généreux. Donc c'est ce moment où nation, liberté, émancipation vont de pair.
Et alors, à cette époque, donc autour des années 1850-60, est-ce que c'est à ce moment-là que naissent les symboles nationaux, les dates, les fêtes nationales ?
Exactement. Tout change en fait à partir des années 1850, au moment où les États se rendent compte qu'il y a un dynamisme associé au nationalisme qui va leur permettre de s'installer un peu plus fortement. Alors, le meilleur exemple, au fond, c'est les États-nations qui n'en sont pas, à savoir l'espace italien et l'espace allemand, qui vont créer un État-nation. Donc, on voit parfaitement comment un État créer une nation à partir d'une culture déjà existante. Alors comment ça se passe ? D'abord, on met en place des trains, ensuite on dénombre la population, et surtout on lui crée une mythologie nationale, avec notamment le rôle de l'école et de l'histoire ici qui est décisif. Ce qui est très intéressant, c'est que alors que l'idée nationale au fond, c'est l'idée que son état-nation est très singulier, on emprunte en réalité les modèles à droite et à gauche. C'est le moment, vous l'avez dit très justement, où tous les États vont se doter d'un drapeau, d'un hymne national, d'une histoire qui est censée être distincte des autres, etc. L'historienne Anne Maritiès parle d'un kit de l'identité nationale, c'est très juste. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde reprend les mêmes éléments. Mais ça va très loin. Hein. En Roumanie, par exemple, on crée une grammaire roumaine pour avoir sa propre langue en 1860. C'est la même chose en Grèce en 1829. Donc on a complètement oublié cette création-là. Le cas de l'Allemagne est le plus intéressant parce qu'aujourd'hui ça paraît une réalité naturelle. Or, en 1871, quand l'Allemagne s'est créée, il n'avait pas de passé. Donc il a fallu s'inventer des figures. Il n'avait pas de figure historique suffisamment forte. Donc au début, on est passé par Guillaume Ier, Bismarck. Et après, on a eu cette réinvention de l'histoire allemande de très longue durée qui plongeait ses racines jusque dans l'Antiquité.
Alors ça paraît étrange parce que quand vous parlez de cette époque-là et de la création des nations, on parle d'émancipation, on parle de progressisme, d'émancipation par rapport aux ordres anciens, pré-révolutionnaires, mais c'est aussi dans ces racines-là qu'ont été puisés beaucoup plus tard les nationalismes belliqueux.
Oui, tout à fait. Le cadre de la nation, il est ambivalent d'une certaine manière dès le début. C'est un cadre qui est parfaitement adapté aux immenses transformations que connaît l'Europe à ce moment-là. Donc il a un côté qui permet de lier ensemble le passé, le présent et le futur de façon un peu rassurante. Une fois que les États-nations se mettent en place, il faut bien voir que le nationalisme va se doter d'une consistance qu'il n'avait pas auparavant. Et on arrive à cette situation, on est plutôt là à la fin du 19e siècle au fond, où la nation est une identité que tout le monde a au fond. Elle est acquise, hein. Gérard Noyon parle d'identité latente, c'est-à-dire que c'est pas celle qu'on mobilise tous les jours, on a son identité de genre, de classe, etc. Mais la nation est là. Donc le nationalisme, au fond, fait partie du bain culturel normal. Ce qui change, c'est le basculement d'un nationalisme ouvert à un nationalisme fermé, qui bascule aussi de gauche à droite à ce moment-là. Quel est le point commun ? C'est, du côté de la droite en tout cas, c'est de commencer à faire passer la société avant l'individu. Le corps social, le tout avant l'individu, et au fond, les premières philosophies contre-révolutionnaires s'appuyaient déjà là-dessus, au fond. Hein. C'est que la société est voulue par Dieu, donc défendre l'individu et l'émancipation est très dangereuse. Et au fond, c'est cette même idée qui se réadapte dans le nationalisme fin 19e.
C'est-à-dire que le nationalisme venait des Lumières, via la Révolution, et puis il devient anti-Lumière à partir de 1890, l'affaire Dreyfus, c'est cette époque-là, Borras, Drummond.
Oui, en réalité, les deux tensions sont constantes avant et après, mais c'est vrai qu'en France, en tout cas, l'affaire Dreyfus joue un effet de révélateur, en quelque sorte, entre... Alors, la gauche n'est pas anti-nationaliste, hein, mais elle a un nationalisme qui va défendre d'abord les droits de l'homme, l'individu, etc. Et l'idée d'un nationalisme xénophobe, antisémite, bon, Charles Maurras aussi développe cette théorie des quatre États confédérés, se structure à ce moment-là. C'est aussi lié à la transformation des discours scientifiques, avec l'émergence de l'eugénisme, du racisme, l'antisémitisme qui va prendre un ton totalement différent. Et là, il y a un bain qui se met en place et qui fait que les années 1900 hein, sont un temps de création d'un nouveau type de nationalisme extrêmement fermé, antidémocratique, antiparlementaire, et qui va commencer à se développer.
Nous sommes toujours dans un café à Blois lors des rendez-vous de l'histoire avec Quentin Deluermoz, historien spécialiste du 19e siècle en quête de nationalisme cette semaine.
Thomas Legrand sur France Inter, en quête de politique.
Il faut revenir quand même un petit peu en arrière. Là, on a avancé dans les années 1880, 90 et 1900. Mais quand même, au moment des nationalismes du milieu du 19e siècle, vous parlez d'émancipation. Il y a quand même aussi une opération d'uniformisation pour que la République française soit une et indivisible. Les hussards noirs de la République, alors c'est peut-être un peu plus tard, mais il y a quand même ce moment d'effacement des particularismes locaux. Les particularismes étaient vécus comme contre l'émancipation, mais ça n'a pas été sans aussi une opération d'uniformisation qui pouvait avoir quelque chose de liberticide aussi.
Oui, il faut bien voir que cette idée nationale prend des formes extrêmement variées. C'est au moment où les États-nations se mettent en place, à des fins aussi d'identification des populations, hein, parce que la question de l'uniformisation se pose, mais elle est ambiguë. Au moment où l'école se développe dans l'ensemble de l'espace social, pour faire apprécier l'idée nationale, ce que faisaient les instituteurs, c'est qu'ils partaient d'abord en fait, de l'environnement local, de la région, et on faisait une espèce de poupée russe. On partait de la région, puis on mettait la région plus large, et on mettait enfin la nation. Donc au fond, il y a eu un travail de discussion, de débat, beaucoup plus subtil que ce qu'on imagine parfois, qui explique aussi pourquoi la Troisième République a pu s'implanter aussi puissamment, d'une certaine manière.
Oui, c'est plus compliqué que simplement le maître qui tapait sur les doigts du petit breton qui parlait breton.
Il y a aussi de ça. Alors, ce qui est intéressant, la question de la langue, elle est absolument fascinante, puisque en France, en 1864, un tiers de la population ne parle pas le français. Dans le Gers, c'est 90% de la population qui ne parle pas la langue, et même chose pour la Bretagne. Donc cet apprentissage du français, c'est fait par petites touches, mais en réalité, bien souvent, c'est des formes de polyglossie qui se développent. C'est-à-dire que les gens continuent de parler le breton et commencent à développer la langue française aussi. C'est au moment où le français s'impose définitivement, c'est-à-dire à toute fin du 19e, qu'il va y avoir ces sentiments parfois de disparition d'une identité régionale auquel on est extrêmement attaché, qui va générer beaucoup de frustration et de tension. Mais le processus qui mène à ça est beaucoup plus lent, les mécanismes sont beaucoup plus subtils que ce qu'on imagine parfois.
Ouais, j'adore cette Marseillaise de Tragédienne, une trouvaille de Franck Olivard, on n'en fait plus des comme ça. Il s'agit de Marthe Chenal en 1915 et ce n'est pas vraiment une habituée de la playlist de France Inter. Alors on vient d'établir les fondements théoriques du nationalisme et son évolution avec Quentin Deluermoz, que l'on retrouvera en fin d'émission. Deuxième historien, aujourd'hui le grand spécialiste du nationalisme en France, Bertrand Joly, archiviste, paléographe, auteur de « Aux origines du populisme, histoire du boulangisme » au CNRS édition et « Histoire politique de l'affaire Dreyfus » chez Fayard, « Nationalisme ou patriotisme », Bertrand Joly. Est-ce qu'on peut dire que à la Révolution, par exemple, quand les armées révolutionnaires vont combattre les immigrés, est-ce qu'à Valmy, est-ce que le soldat de l'an 2, est-ce que les discours révolutionnaires qui défendent la nation française sont déjà du nationalisme ?
Je crois d'abord que c'est d'abord avant tout du patriotisme. Un patriotisme jacobin, fervent. Patriotisme et nationalisme ne sont pas deux synonymes, loin de là, au contraire. Et
même faites-nous la différence.
Eh bien, le patriotisme, c'est la défense naturelle, l'attachement à l'endroit où on est né, où on a vécu. C'est un sentiment tout à fait normal et même sain de s'attacher à ce qui est facteur d'identité, à ses racines. Le nationalisme, lui, est tout à fait différent. Il s'agit de transformer justement la patrie en un objet d'adoration exclusif et de le transformer en une communauté assez artificielle. Le nationalisme naît toujours d'un bricolage identitaire.
Il y a un auteur qu'on peut taxer de nationaliste qui propose une différenciation entre nationalisme et patriotisme. C'est Raoul Girardet qui est un historien.
Oui.
Comment vous le qualifieriez ? Il a été Action française ?
Il a été Action française, mais c'était un esprit modéré, pondéré. Il a fait un petit peu de résistance, il a défendu l'Algérie française bec et ongle, d'ailleurs, et même il a été très proche des milieux de l'OAS, je pense. Mais, par ailleurs, il ne s'est pas fait connaître par des prises de position racistes, antisémites, ou très marquées dans le sens d'un ultracisme quelconque.
Et donc, en 1975, pour Radio France, voici ce qu'il propose comme différenciation entre nationalisme et patriotisme.
Ce nationalisme-là, il se définit non pas du tout par référence à un quelconque parti politique, à une quelconque doctrine politique. Ce n'est pas le nationalisme barésien, ni le nationalisme maurassien. Ce nationalisme-là, c'est tout simplement l'attachement à l'État-nation. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut définir le nationalisme, c'est-à-dire dans l'échelle des valeurs politiques et sociales, la prépondérance accordée à la valeur nationale, au désir de maintenir l'indépendance et de maintenir la souveraineté et la grandeur de l'État-nation. Et sur ce point, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, la plupart des Français se trouvent effectivement d'accord.
Mais alors, où est le clivage entre le simple patriotisme et le nationalisme dans l'optique que vous venez d'indiquer ?
Je crois que le clivage, si vous voulez, ça serait un ordre de priorité. Si nous prenons le cas de la France d'avant 1914, je crois que nous pouvons dire que Jaurès, par exemple, est un patriote. Jaurès n'a jamais nié la réalité de la patrie, ni jamais non plus nié son attachement à la patrie. Et cependant, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il était nationaliste. En revanche, je crois que l'on peut dire que Poincaré, Clémenceau, aussi bien que Maurras ou Barrès, étaient nationalistes. Pourquoi ? Parce que dans l'échelle des valeurs politiques et sociales, ce à quoi ils accordaient la priorité était précisément la nation.
Alors Raoul Girardet, ici, Bertrand Joly, a une définition, donne une acception au mot nationaliste, assez positive ou du moins neutre.
Elle la donne surtout si extensive et si large qu'à mon avis, elle ne signifie plus grand-chose. Moi, je ne suis pas d'accord, c'est une question de définition, moi, je ne suis pas d'accord de traiter de nationaliste Poincaré, Clémenceau, De Gaulle, comme on le fait souvent.
Les Républicains, vous n'êtes pas d'accord pour que les Républicains soient nationalistes.
En effet, je ne suis pas d'accord, je me trompe peut-être, je l'admets volontiers, mais je pense que ce qui anime ces hommes, ce qui sont des hommes d'État, c'est une vision de l'État, certes, de la patrie, mais en aucun cas, ils ne sont animés par cette espèce de volonté de reconstruire une sorte de nation idéale. Ils sont libres face à ce bricolage idéologique qu'un Maurras ou un Barrès ont pu faire. Je pense que ce sont les patriotes.
L'accès
de nationalisme ne me paraît pas une bonne chose.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec la différenciation assez floue, c'est vrai, que vient de nous donner Raoul Girardet. C'était en 1975. Alors il faut revenir, Bertrand Joly, un peu en arrière, pour donc revenir à l'origine du nationalisme tel que vous venez de nous le définir. Ça commence quand ?
Je crois que le nationalisme va naître de la rencontre entre deux contestations dans les années 1880. Le mouvement boulangiste, qui voit l'alliance non avouée, alliance discrète et alliance même un peu honteuse, mais alliance quand même, entre une partie de l'extrême-gauche, des radicaux de l'extrême-gauche.
Et les blanquistes, ceux qui ont fait la commune, certains de ceux qui ont fait la commune.
Une partie de communards, pas tous, mais une partie, ouais. Une partie appréciable d'ailleurs, et puis une partie du monde royaliste et bonapartiste. Des gens qui n'espèrent plus la restauration impériale ou royale, qui ne croient plus au trône et à l'autel, et qui cherchent donc un combat de rechange, une manière d'exister politiquement. Et donc, ces deux extrêmes se rencontrent et collaborent à une aventure très douteuse, qui se termine mal pour eux, ça part une défaite totale.
Le boulangisme, donc, qui est un échec pitoyable.
Total, en effet, oui, qui est d'abord une défaite d'abord électorale, puis une défaite morale, quand sont révélés les dessous assez répugnants de l'aventure. Et puis une défaite tout court, quand le général se suicide, vous le savez, dans sur des conditions romantiques, sur la tombe de sa maîtresse. Et de la fin un peu lamentable de cette odyssée, eh bien, une fermentation va naître dans les années 1890, qui va voir une partie de ces anciens radicaux se déporter de l'extrême-gauche vers l'extrême droite, où il retrouve une partie du monde royaliste et bonapartiste qui n'accepte toujours pas la République et qui cherche une autre voie d'opposition. Et donc, en quelques années, c'est assez rapide, mais c'est en même temps, c'est une fermentation extrêmement difficile à saisir. Se constitue le nationalisme. Au milieu des années 90, existe, par exemple, une très éphémère revue nationaliste, c'est son titre. C'est le moment où Barrès va commencer à rechercher autre chose que son fonds de commerce ancien, la décadence, les symbolistes, le culte du moi.
Et le mot apparaît à ce moment-là, avec cette revue, le nationalisme.
Le mot apparaît à ce moment-là. Au début des années 90, il commence timidement à être utilisé. 5 ou 6 ans plus tard, il est d'usage non pas courant, mais assez fréquent.
En quête de politique.
Je suis nationaliste. Au sommet de la société, comme au fond des provinces, dans l'ordre de la moralité, comme dans l'ordre matériel, dans le monde commercial, industriel, agricole, et jusque sur les chantiers où il fait concurrence à l'ouvrier français, l'étranger, comme un parasite, nous empoisonne.
Maurice Barrès par le comédien François Martouret pour France 3.
On doit détruire une disproportion dangereuse.
On doit détruire cette disproportion dangereuse et obtenir plus de respect pour nos véritables nationaux.
Et obtenir plus de respect envers nos véritables nationaux, enfants de la Gaule, et non de la Judée, mais surtout...
La question juive est liée à la question nationale. Assimilés aux Français d'origine par la Révolution, les Juifs ont conservé leur caractère distinctif, et de persécutés qu'ils étaient autrefois, ils sont devenus dominateurs.
L'étranger, comme un parasite, nous empoisonne. Nous sommes nationalistes.
On arrive là au moment de l'affaire Dreyfus.
Oui.
Est-ce que c'est un moment important dans la fabrication du nationalisme, puisque vous nous dites, Bertrand Joly, que le nationalisme fabrique une nation, en tout cas fabrique un concept, un peuple.
Tout à fait. On a souvent dit que le boulangisme est l'acte de naissance du nationalisme et l'affaire Dreyfus son acte de baptême. C'est en effet le moment où certains vont se dire nationalistes et se revendiquer comme tels. Le mot et la chose acquièrent une visibilité politique, avec même une entrée au Parlement. C'est le moment où un premier cycle s'achève. Le nationalisme, première manière, les années 90, restait encore nominalement républicain. Il était hostile au régime, mais il n'était pas lié à une autre cause comme la monarchie.
Il cherchait un régime autoritaire, peut-être voilà. Républicain, mais autoritaire.
À partir surtout d'antiparlementarisme, qui était sa valeur fondamentale, avec aussi une branche qui n'était pas la plus importante, peut-être, mais qui existait, c'est la branche antisémite,
ouais.
Qui voulait un régime à poigne et des mesures d'exception contre les Juifs, en fait, assez proches, pour autant que puisse en juger, assez proches de ce que sera le statut des Juifs en 1940.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
Bertrand Joly, donc, si on suit votre logique, 14-18, la guerre de 14-18 n'est pas un moment nationaliste, comme on a coutume de le dire, mais un moment patriotique.
Absolument, c'est un mouvement patriotique. Il y a consensus entre les Français, de l'extrême gauche à l'extrême droite, sur la volonté de se défendre en cas d'attaque allemande. Et uniquement dans ce cas-là, pas de guerre offensive. Et rien ne l'exprime mieux qu'une très belle remarque de Jules Renard dans son journal intime, où il dit « Je veux la paix, il nous faut la paix, je donne tous les Marocs du monde pour avoir la paix, mais si les Allemands s'imaginent qu'on a peur, ils se trompent, ils n'ont qu'à venir y voir ». Il y a donc cette résolution ancrée, même chez les plus ardents pacifiques français, de se défendre si on est attaqué. Et donc l'Union sacrée se réalise, oh bien sûr, à la fin de la guerre, elle sera sérieusement écornée, mais au début, il y a donc une unanimité qui explique que le nombre de désertions sera extrêmement faible. Les Français se sentent attaqués et ils veulent se défendre.
L'Union sacrée, donc, de Jules Gued à l'extrême gauche.
De Jules Gued, le socialiste Jules Gued, qui entre au gouvernement. C'est le moment aussi où, par exemple, Édouard Vaillant, vieux communard, qui ne parlait pas à Albert Demain, député catholique et ancien officier qui avait participé à la répression de la Commune, il ne se parlait pas, et en 14, Vaillant donne la main à Albert Demain au nom de la patrie.
La guerre de 14 n'est pas nationaliste, elle est patriotique, mais le nationalisme renaît et vit plutôt pas mal entre les deux guerres.
Ah, mais il existe même pendant la guerre de 14. Maurice Barrès est sur un petit nuage pendant la guerre. Tous ses articles quotidiens le montrent. Il est ravi. Et il va d'ailleurs, à la fin de la guerre, développer toute une théorie justifiant l'annexion d'une partie de la rive gauche du Rhin.
Donc en 1920, Clémenceau accueille à l'Assemblée nationale les nouveaux élus alsaciens et lorrains. Il fait un discours qu'on pourrait d'habitude qualifier de nationaliste. Vous allez nous dire si c'est du nationaliste, je ne pense pas, mais vous allez nous le dire. Clémenceau.
Frères d'Alsace et de Lorraine, la France vous reçoit sur son cœur. D'une terrible histoire de larmes et de sang, vous avez fait jaillir une allégresse d'une douceur infinie. C'est que, unis ou séparés, nous étions, nous ne pouvions cesser d'être la France. C'est que vous aviez emporté avec vous un peu de la France. Et c'est de la France toujours, préservée de la souillure ennemie, que vous rapportez des jours de servitude dont vous avez su faire des jours de fierté. Est-ce espérer trop haut ? Que de vouloir que le jour de l'Alsace et de la Lorraine retrouvée s'achève dans la résolution confiante d'un vieux peuple renouvelé. Point de relâche, point de vaine querelle, la France à refaire. Attends-nous.
Donc du lyrisme, beaucoup de lyrisme, on parle de la souillure des ennemis, et c'est pas du nationalisme.
D'abord, ils disent ce que pensent la plupart des Français. Ce n'a rien d'original, dans le fond. Même si Clémenceau le fait avec son talent oratoire. C'est du patriotisme, un patriotisme vibrant, qui est consensuel et héritier direct du patriotisme jacobin de Delandeux. Ça n'a, à mon avis, pas du tout nationalisme.
Je précise quand même pour nos auditeurs, c'était évidemment une reconstitution, extrait d'un téléfilm pour France 2. On est entre les deux guerres, et donc le nationalisme, le vrai, celui qui est d'extrême droite, se porte bien.
Il renaît à chaque fois dans un contexte de crise. Il renaît quand en 24, le cartel des gauches, c'est-à-dire l'alliance entre radicaux et socialistes, gagne des élections, et aussitôt, une crise financière, monétaire commence. Les milieux dirigeants patronaux ne font pas de cadeaux au gouvernement, qui lui-même fait des erreurs. Et donc, ça va provoquer un mécontentement qui va susciter, à l'imitation enviée par certains de l'Italie de Mussolini, la naissance d'un renouveau d'un nationalisme qui n'est pas Action française. Georges Valois, qui va créer le Faisceau, le nom indique bien ce que c'est. Oui. Georges Valois est un ancien de l'Action française, mais en rupture avec Maurras.
Qui devient fasciste.
Oui, il se dit fasciste, et les deux mouvements vont se haïr, et même en vie romain. Donc, la mouvance nationalisme est extrêmement déchirée. Mais il est vrai qu'elle se relance, et elle va subir de plein fouet deux événements. D'une part, pour le Faisceau et ses imitateurs, le rétablissement de la situation économique et financière, avec le retour de Poincaré au pouvoir, qui fait que la droite patronale n'a plus besoin de nationalistes et ferme le robinet financier. Et puis pour l'Action française, c'est la condamnation par le Saint-Siège en 26 de l'Action française, plutôt la condamnation des thèses de Maurras, et par exemple de ce fameux politique d'abord, qui subordonne toute chose à l'intérêt politique. La Gifferie 34 va être une sorte de chant du cygne pour le nationalisme ultra, car il va provoquer la fondation du Front populaire, le retour de la gauche au pouvoir, et la dissolution des principales ligues. C'est une défaite.
S'il va renaître après, peut-être dans la collaboration, on y reviendra. Mais je voudrais vous faire encore entendre, Bertrand Joly, un extrait de cette interview de 1975 de Raoul Girardet, qui a une autre conception du nationalisme que vous. Regardez comment il parle du Parti communisme.
Je pense à l'attitude du Parti communiste français, qui ne cesse d'exploiter le thème nationaliste, voire chauvin.
On dit qu'aujourd'hui, il est le parti français le plus nationaliste. Vous êtes d'accord là-dessus ?
Oui, je dirais non seulement le plus nationaliste, mais le nationaliste dans le sens le plus péjorativement traditionnel, c'est-à-dire le plus cocardier. Ce sont les héritiers de Déroulède, si vous voulez, et généralement d'un mauvais Déroulède.
Voilà, alors Raoul Girardet parlait du Parti communiste des années 75, mais il évoquait un peu plus tôt dans l'interview le Parti communiste de l'entre-deux-guerres qui était aussi, selon lui, nationaliste.
Le tournant, c'est 1934-35, justement, c'est le 6 février, et c'est le tournant ordonné par Moscou à Maurice Thorez. On enterre les pratiques antimilitaristes, la rubrique sur les gueules de vache dans l'humanité.
On ressort le drapeau tricolore.
Et on ressort le drapeau tricolore. Le tournant, il se passe à ce moment-là. Mmh. Et il est vrai que le Parti communiste va, sans déplaisir sans doute, retrouver ce qui est quand même un des fondements de la gauche française, le patriotisme jacobin. Je pense que Girardet exagère assez nettement. Traiter de nationaliste le Parti communiste, je ne crois pas que ce soit très, très pertinent, même si je ne suis pas du communiste, hein, je le préviens. Mmh. Mais c'est le patriotisme peut-être parfois pas très éclairé, on peut l'admettre, mais un patriotisme fort et qui se retrouve de façon assez consensuelle dans toutes les familles politiques.
Voilà, pour vous, le patriotisme jacobin ou le patriotisme même un peu républicain autoritaire ne fait pas du nationalisme.
Eh bien, la frontière est extrêmement ténue.
Oui.
Quelqu'un comme Déroulède, il est à la frontière, justement, et tantôt il bascule d'un côté et tantôt de l'autre. Tantôt c'est un vrai nationaliste, capable d'aller assez loin. Tantôt, c'est un esprit beaucoup plus modéré, qui défend les Juifs notamment, et qui finit sa vie, je vous l'ai dit, en se ralliant à Poincaré à sa majorité modérée.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi, tu courais toujours en vain, ouais, tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans, ouais, tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement pour une dixième fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes entre bureau et tristesse. C'était peut-être ça la vie, t'en étais persuadé aussi. Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour, un peu de love et de tendresse. Finalement c'est ce qu'il nous reste, que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut, que de beaux jours, que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love. Un peu de love. Un peu de love et de tendresse. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love. Un peu de love. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse.
Love and Tendresse sur France Inter, Eddie de Pretto.
Grégoire Kaufmann est historien, professeur à Sciences Po et spécialiste d'Édouard Drumont. Il est l'auteur, entre autres, de Édouard Drumont chez Perrin et Le Nouveau FN, les vieux habits du populisme au seuil. Le nationalisme tel qu'on l'entend aujourd'hui naît autour de 1880. Grégoire Kaufmann.
Enquête de politique. Thomas Legrand.
Il désigne en fait ce qu'on pourrait appeler les anti-Dreyfusards avant Dreyfus. Il y a toute une nébuleuse qui se met en place depuis les années 1880, composite, tiraillée par des contradictions assez insurmontables, hein, et ce sera toujours le problème du nationalisme que de ne pouvoir présenter une façade cohérente et unie, parce qu'il est tiraillé par des acteurs qui n'arrivent pas à s'entendre. Mais en gros, si le terme apparaît dans ces années 1890, 10 ans plus tôt, politiquement, on peut déjà identifier ce phénomène qui naît sous la poussée du phénomène boulangiste, et également sous l'influence de polémistes comme Édouard Drumont. Et à bien des égards, on peut considérer que le nationalisme opère la suture entre le boulangisme de gauche et le traditionnalisme catholique antisémite à la Drumont. C'est très contradictoire et c'est bien ce qui va poser problème au nationalisme dès le début, et on ne le souligne jamais assez, quelle est la position des nationalistes face à la question religieuse. C'est vraiment un débat qui n'arrivera jamais à résoudre, en quelque sorte, il n'arrivera jamais à répondre à cette question-là, parce qu'on a d'un côté des boulangistes qui se réclament d'un républicanisme archaïque dérivé du sans-culottisme, un républicanisme démagogique, hostile aux élites, hanté par la décadence, qui en appelle à l'autorité.
Déjà un peu populiste, on pourrait dire.
Voilà, c'est un premier populisme qui surgit sous la poussée du phénomène boulangiste. Et on a également toute une nébuleuse catholique, initialement très défiante à l'égard de l'idée de nation, et même du terme de patrie, hein, qui est l'auxiliaire sémantique de l'idée de nation. On va voir les catholiques petit à petit se frotter aussi à ce nationalisme d'un type nouveau. Et ces deux sensibilités vont converger dans le phénomène nationaliste qui, encore une fois, n'arrive pas à surmonter ses propres contradictions dès l'origine. Et la grande rupture, ça va être Charles Maurras et l'Action française. C'est l'homme de la rupture, c'est celui qui va nous dire le nationalisme est logiquement et scientifiquement incompatible avec l'idée républicaine. Se dire nationaliste, c'est induire que la République, en fait, on doit s'en débarrasser, puisque le nationalisme intégral implique l'inégalité naturelle entre les hommes. Donc c'est quand même une immense transgression que de dire ça au sein du camp nationaliste au début des années 1900.
Oui, il devient identitaire, en fait.
Il devient identitaire et il dit simplement le nationalisme postule l'inégalité de naissance. Et il dit par exemple Maurras avec « on va en finir avec la République et ça va régler la question juive par exemple, puisqu'on va faire des juifs les sujets de la France, on va en faire des demi-citoyens qui vont perdre leurs droits politiques et civiques, on va rétablir l'autorité par le haut et on va théoriser l'inégalité naturelle. » Ça c'est très nouveau. Et ça d'ailleurs c'est même quelqu'un comme Maurice Barrès qui est très proche de Maurras, n'arrive pas en fait à se convertir à cette idée de néo-royalisme. Et c'est en cela que Maurras, qui était sans doute le plus grand théoricien du nationalisme à l'époque, est encore une fois l'homme qui va leur proposer enfin un horizon d'attente en professant cette rupture radicale avec l'héritage républicain. Et ça, c'est totalement nouveau. Et ce sont les nouveaux visages du nationalisme qui, de plus en plus, à partir de Maurras, va se définir comme anti-républicain. Mais il restera toujours des sensibilités qui tentent de faire coexister nationalisme et héritage républicain. Parce qu'encore une fois, il ne présente pas un front uni.
D'un côté, il y a la question avec la République, c'est-à-dire que vous nous expliquez que la République, pour toute cette partie de la droite, devient incompatible avec la nation. Mais d'un autre côté, il y a l'inverse qui doit s'opérer. Il faut faire comprendre aux monarchistes qu'il faut devenir nationaliste. Pour eux, ils n'étaient pas nationalistes. Et les monarchistes, par exemple, les nobles français, se sentaient plus proches des nobles anglais ou allemands ou autrichiens que du peuple français. Comment les monarchistes deviennent nationalistes et finalement s'attachent aux frontières de la France, à l'Hexagone? Ce n'était pas du tout leur horizon avant.
Les royalistes vont se convertir au nationalisme d'abord sous la poussée du phénomène boulangiste, parce qu'on sait que la droite royaliste va financer, va porter le mouvement boulangiste, qui n'aurait jamais atteint un tel degré d'influence sans ses soutiens royalistes. Donc, et là, il y a encore une forme de transgression par rapport à cet état-major royaliste qui, tout d'un coup, s'abouche à un mouvement qui n'a rien à voir avec son identité d'origine. Donc, ce sont deux sensibilités qui se frottent l'une à l'autre et qui vont un peu déteindre l'une sur l'autre. Et dans les années 1890, avec l'affaire Dreyfus, encore une fois, les droites royalistes vont soutenir ardemment les mouvements anti-Dreyfusards et s'agréger à cette tendance républicaine, contestataire, protestataire, populiste. C'est un agrégat, encore une fois, fragile, mais il y a une porosité entre ces deux tendances, initialement antagonistes, et c'est ce que nous apprennent ces années 1880 et 1890. Et c'est pour ça qu'elles sont essentielles dans la genèse et dans l'histoire des droites radicales et du nationalisme.
Nous sommes toujours avec Grégoire Kaufmann, notre troisième historien, pour retracer l'histoire complexe du nationalisme. Le chemin idéologique du nationalisme n'est pas si simple, hein. Ce n'est pas juste du patriotisme borné ou du chauvinisme élaboré.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a l'un des arguments des républicains purs et durs à l'encontre des royalistes et de la droite royaliste, et donc ce qu'ils appellent les cléricaux, eh bien, c'est l'accusation d'internationalisme. Ça peut paraître étrange, oui. Mais on accuse la droite et les ultra-catholiques d'appartenir à une internationale noire qui prendrait ses mots d'ordre au Vatican. Donc la propagande nationaliste républicaine dénonce chez les royalistes justement ce phénomène internationaliste qui paraît à peine croyable aujourd'hui, mais on accusait cette droite royaliste d'être pas suffisamment attaché à l'idée de nation, à l'idée de patrie. On rappelait Koblenz, on rappelait les guerres révolutionnaires en leur disant « vous n'appartenez pas à la communauté nationale ». Cette droite royaliste ultra-cléricale intransigeante, accusée de prendre ses mots d'ordre au Vatican et d'être pas suffisamment attaché à l'idée de nation, eh bien, va tenter de se soustraire à cette accusation à cause de l'antisémitisme. C'est-à-dire que exclure les Juifs, c'est se revendiquer français. Par l'antisémitisme, ils vont se sentir davantage appartenir à la communauté nationale.
Vous êtes Grégoire Kaufmann, spécialiste de Drumont, donc ça précède un petit peu, mais l'affaire Dreyfus fait passer définitivement le nationalisme du côté de la droite. Et je voudrais vous faire écouter une petite scène entre Drumont, Barrès et Zola, reconstitué bien sûr pour France 2 en 1978, pour un téléfilm consacré à Zola. C'est une réunion de la Société des gens de lettres.
Zola, vous êtes toujours du côté des corrupteurs de la nation. Vous êtes un destructeur de la société.
Je me bats pour la vérité et pour la justice.
Ah, vous souillez la France!
Mais il est vrai que pour Zola, le patriotisme...
Vous n'avez pas le monopole du patriotisme, Barrès. Vous encore moins, Drumont. Chaque matin, en lisant vos journaux, ma stupeur grandit. Comment on vous dit que l'île du diable, un homme agonise, qui est peut-être innocent?
Peut-être!
On vous dit qu'on a des preuves qu'au moins il a été mal jugé. Et vous refusez la lumière. Et vous prétendez appartenir à ce peuple qui a tiré les prisonniers de la Bastille?
Il a eu bien tort.
Il est bien là le problème, Barrès.
Voilà, donc il y a l'intérêt national, le patriotisme, donc on ne dit pas nationaliste, on est patriote, notion positive. Est-ce qu'on se disait nationaliste à l'époque déjà? Est-ce que le mot était déjà dans le langage courant? Est-ce qu'on se traitait de nationaliste? Est-ce que c'était un anathème ou est-ce que c'était positif?
Non, c'était pas un anathème, puisque les Barrès, les Drumont, les Déroulède et autres meneurs de l'anti-dreyfusisme revendiquent hautement ce qualificatif. Alors évidemment, leurs adversaires aussi vont en faire un terme péjoratif, mais il y a des comités nationalistes qui se fondent à l'époque, il y a une tentative d'entente nationaliste qui va voir le jour en 1899-1900. Maurras, quand il va jeter les fondements de l'Action française, théorise le nationalisme intégral, donc c'est un terme qui investit le langage courant, même à la Chambre, à l'Assemblée nationale, c'est un terme dans le journal officiel qui tout d'un coup fait son apparition. On voit déjà à l'intérieur du camp nationaliste, par rapport à cette scène que l'on vient d'entendre, un Drumont et un Barrès sont déjà pas sur la même longueur d'onde, puisqu'ils sont tous les deux anti-dreyfusards, mais Barrès trouve quand même parfois que Drumont va trop loin. D'ailleurs, Barrès refusera toujours d'écrire dans le brûlot antisémite de Drumont la libre parole. Quant à Zola, évidemment, il figure pour eux l'ennemi absolu. Pour Zola, prendre la défense du capitaine juif accusé injustement d'espionnage, eh bien, au contraire, c'est revendiquer d'un patriotisme éclairé, ouvert, généreux, progressiste. Hein. Zola est tout à fait à l'aise avec l'idée de patrie. Il ne se sent pas du tout à l'aise par ailleurs avec l'idée nationaliste.
Alors Grégoire Kaufmann, on va enjamber quelques décennies parce que la première partie du XXe siècle, les États-nations, les nations s'affrontent dans deux guerres mondiales. Et je voudrais vous faire écouter deux extraits de discours à la suite. Le premier, François Mitterrand en 1995 devant le Parlement européen de Strasbourg, la fameuse phrase « Le nationalisme, c'est la guerre ». Et juste après, un extrait d'un discours de Jean-Marie Le Pen en 2011, où il célèbre les 40 ans, ou les presque 40 ans de la formation du Front National, et il a une autre acception du terme nationaliste.
Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera.
Il ne peut y avoir de politique sociale sans cadre national.
Alors, quelle est votre réaction à quand on met ensemble ces deux acceptions du nationalisme?
Alors, c'est intéressant parce que Jean-Marie Le Pen, dans ce discours-là, peut-être renoue, à mon avis, totalement involontairement, avec une tendance du nationalisme. En effet, il y a un nationalisme qui n'est pas belliciste. il y a un nationalisme qui n'est pas germanophobe. Le nationalisme d'Edouard Drumont, par exemple, est bien davantage tourné vers l'éradication de l'ennemi intérieur, ce que Charles Maurras appellerait les quatre États confédérés, hein, les juifs, les métèques, les protestants, les francs-maçons. Et Drumont dit « redevenons français, arrêtons de regarder vers l'Allemagne, commençons la guerre chez nous, la croisade allait amener chez nous, parce qu'il faut éradiquer l'étranger qui usurpe la nationalité française et qui campe au cœur de la nation, le juif,
voilà, là,
et
non pas vers l'extérieur. » Le parallèle avec Jean-Marie Le Pen et avec l'immigration. Mais en même temps, il y a cet aspect-là, mais il y a un autre aspect, et c'est peut-être le souverainisme, alors pas de politique sociale en dehors du cadre de la nation.
Oui, alors après, Jean-Marie Le Pen a beau jeu de se réclamer d'une politique sociale. Oui,
évidemment.
Il ne faut jamais oublier qu'il se définissait dans les années 1980 comme le Reagan français, et qu'évidemment, sous l'influence en partie de sa fille et d'autres cadres du Front National, va tenter de conquérir l'électorat populaire par un discours plus socialisant.
On parle du discours et non pas des volontés cachées, voilà, effectivement. Ouais, ouais. Mais enfin, il y a une transformation de l'idée nationaliste en idée souverainiste. Il y a des phénomènes ou des mots un peu voisins, on a vu le patriotisme, le souverainisme. Apparaît maintenant d'ailleurs le localisme. Alors, pas du côté des écologistes, là, on ne peut pas les soupçonner d'être nationalistes, mais une fraction de la droite explique que la solution aux problèmes écologiques réside dans le localisme. On comprend bien les raisons économiques, mais il peut y avoir derrière cette notion de localisme une part identitaire qui les rattache au nationalisme.
Tout à fait. Le localisme magistral retour inconscient ou involontaire à la tradition de l'Action française de Charles Maurras. Il ne faut jamais oublier que Charles Maurras était un anti-jacobin, qu'il prenait la décentralisation et qu'il valorisait les identités locales. Et il y a dans ce localisme toute une terminologie qui rappelle un petit peu l'anti-jacobinisme de Maurras et sa volonté décentralisatrice. Quoi. Bah, évidemment, je pense que les principaux acteurs ne sont pas forcément conscients de cette continuité-là, mais en tout cas, il est intéressant de l'observer.
Sur ce sujet, le localisme, pour terminer notre émission, on retrouve l'historien Quentin de Luermoz.
Pendant tout le début du 19e siècle, en fait, on n'a pas encore d'opposition à l'étranger comme non national. C'est-à-dire qu'au fond, l'étranger, c'est celui qui n'est pas du coin. Donc ce localisme fait partie des modes de vie normaux de la population. Et c'est là où on retrouve ce grand changement de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le localisme, c'est une manière de se réapproprier son espace immédiat, de recréer des liens sociaux plus forts dans un espace mondialisé dont on a l'impression qu'il nous échappe de plus en plus. Souvent, on a tendance à se dire, tiens, il y a une phase locale, il y a une phase nationale, une phase globale en histoire. En réalité, ce qu'on observe, c'est que les trois se mélangent tout le temps. Local, national et transnational se mélangent en permanence et aucun n'est doté d'une valeur plus positive ou négative que l'autre. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est parce que on est dans un espace mondialisé et surtout que la crise climatique pose la question de cet espace globalisé qu'on se rend compte que les espaces nationaux n'arrivent pas à y répondre correctement alors qu'avec les États, c'est eux qui ont plutôt les moyens d'agir. Ça revalorise le local comme lieu d'action valorisé en réponse à ça. Donc on voit bien qu'ici, le global, le national et le local, en réalité, s'enchevêtrent ensemble en permanence. L'idée d'y voir quelque chose de passé, c'est complètement absurde. C'est plutôt une volonté de se réapproprier son propre espace et sa propre capacité de vie, qui est pour le coup un type de réflexe qu'on retrouve très souvent à l'échelle de l'histoire, même y compris dans la longue durée.
À la technique aujourd'hui, Julien Michel et Théo de Lobadère. Tous les numéros d'Enquête de politique sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France. La semaine prochaine, pour ce premier numéro de 2025, nous allons parler de laïcité, peut-on dire, laïcisme. 2025 sera l'année du centenaire de la grande loi de séparation des églises et de l'État. On se retrouve donc dimanche à 18h10. D'ici là, n'oubliez pas, en 2025 comme en 2024,
si vous ne vous intéressez pas à la politique,
alors ça, c'est Christophe Imbert, notre réalisateur.
C'est la politique qui s'intéressera à vous.
Et ça, c'est Franck Olivard, notre recherchiste.